Merci pour ton serviteur.
Attends de quoi la messe.
Merci pour tout ce que tu as prévu ce soir.
Comme de quoi la nuit sera ici.
C'est en ton nom que tu as moi ainsi.
Le coupeau de rendez-vous est au bon délit.
Amen.
Amen.
Acclamons le Seigneur.
Je te laisse.
Amen.
Amen.
Ok, sans plus tarder.
On apprend la courbe
et sans commentaire. Nous allons faire lever le pasteur Gaël dont nous vous avons parlé. Il vient de perdre la
tête aussi
quand un message tombe. Il avait annoncé qu'il sera question de au-delà du voile déchiré.
Et si le voile ne pas suka.
Amen.
Amen.
Est-ce que nous pouvons accueillir le pasteur Gaël et ta
saluer la personne qui est à côté de toi et lui dire de bon endroit ce soir et le Seigneur est parole pour toi. Le Seigneur est parole pour toi. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ.
Merci de nous la compagnie de Jésus.
Que sa paix soit sur cette assemblée.
Qu'il n'y a des alarmes ici pour eux.
C'est encore une responsabilité qu'il nous donne ce soir.
Et qu'en quoi discussion pour la lune.
De pouvoir parler de sa part.
Pour nous parler à Tinané.
À des hommes et à des femmes.
Là-bas, si Pénibal.
Qui comptent pour lui.
Pour eux au bazar, au cœur de vos.
Et souvent je le dis, c'est vrai.
Il y a le bon à solo.
C'est une responsabilité que de parler de la parole de Dieu.
Ils ont beaucoup de pour le bâtir dans l'assemblée.
Parce que la Bible déclare que nous rendons compte.
Pour être libérés de l'unité de Koyevis.
De chaque parole que nous avons fait sortir de la part du Seigneur.
Car le bâtir sort haut et autour de la scène en cours.
Et vous comptez tellement aux yeux de Dieu.
Nous avons tué la mission dans l'armée.
Que nous ne pouvons pas nous permettre, derrière la chair, de raconter des histoires.
Mais un mot de même combat apporté pour la bâtir la vie.
Et donc pour moi encore ce soir, c'est une très grande responsabilité. Je prie que le Seigneur puisse véritablement faire de moi un instrument qui va édifier son peuple ici. La seule prière est que personne en ces lieux soit privé de la grâce de Dieu.
Il
sera manifesté pendant ces 4 jours. Vous savez, Israël n'a pas connu le temps de sa visitation.
Israël, et va quitter pour Israël avant de s'aller en route.
La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière
tantôt.
C'est l'homme qui ne prend pas garde. Alors je prie que pendant ces 4 jours, que tu puisses être attentif.
Bon début.
L'esprit va te parler. C'est une chose est certaine, Dieu parle. Et la question que nous devons nous poser ce soir, est-ce que nous sommes capables d'écouter Dieu? Parce que c'est bien de demander à Dieu de nous parler. Nous devons également nous disposer pour écouter Dieu. Alors ma prière est que pendant ces 4 jours, et que vous ne puissiez pas juste entendre la parole de Dieu.
Vous
puissiez écouter la parole de Dieu. Parce que entendre, c'est juste recevoir de l'information. Mais écouter, c'est prêter attention à ce que vous avez entendu. Écouter, c'est considérer attentivement ce que vous avez entendu. Et donc je pense que l'Esprit du Seigneur veut des hommes et des femmes pendant ces 4 jours qui vont écouter. Et nous qui vont entendre. C'est pourquoi, encore une fois, dis à ton voisin, ta voisine ne soit pas privée de la grâce. Oh, merci Seigneur.
Come on.
Le Seigneur a une parole.
Souhaite un coach à Zanani le Bapo Nayou.
Et nous allons parler pendant 4 jours d'un événement. Un événement pas comme tous les autres événements. Vous savez, dans la vie, il y a des événements qui marquent, qui demeurent gravés dans la mémoire, dans les consciences des peuples. Et il y a d'autres événements qui passent et puis voilà, après on s'en souvient plus. Et j'aimerais parler d'un événement fondamental et majeur parce que tout le sujet que nous allons traiter va tourner autour de cet événement. Au-delà du voile déchiré,
nous allons
voir pendant 4 jours qu'est-ce qui a fait que ce voile doit se déchirer. Et pourquoi ce voile a été déchiré? Qu'est-ce qu'il y avait avant ce voile et qu'est-ce qu'il y avait après ce voile? Parce que si ce voile a été déchiré, ce n'est pas juste parce qu'il fallait déchirer le voile. Et la compréhension de ce sujet, je dis bien, il est fondamental.
Parce
que si nous ne comprenons pas le cœur de ce sujet, c'est difficile pour nous d'aller plus loin avec Dieu. Parce que nous rencontrons le Seigneur. Après avoir rencontré le Seigneur, il faut marcher avec Dieu. Et donc dans la marche avec Dieu, il y a certaines choses que nous devons comprendre. Parce que si nous ne comprenons pas, nous ne marcherons pas comme Dieu le veut. Alors dans Romains chapitre 3, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Et ensemble, nous allons lire un peu Romains. C'est un passage que beaucoup connaissent, je suppose.
Verset 23.
Romains 3, le verset 23 déclare ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À travers ce passage, nous découvrons que le péché nous prive de la gloire de Dieu. Mais non, lorsque nous repartons dans le livre des origines, nous sommes au chapitre 3 de Genèse.
Nous allons à Genèse 3.
Et nous allons lire le verset 15.
Verset 15.
Ici, il est question des différents jugements que Dieu va apporter à l'homme, la femme et au serpent. Et cela se passe à Éden. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu, spécialement pour cet homme créé à son image et à sa ressemblance, a créé un environnement sur la terre qu'on appelle Éden. Parce que Éden, c'était la terre de Dieu. C'est l'environnement que Dieu a créé sur la terre où il a planté l'homme pour qu'il puisse se garder et cultiver. Et c'est à Éden que l'homme rencontrait Dieu. C'est à Éden que l'homme expérimentait la gloire de Dieu. Parce que chaque soir, Dieu venait rencontrer l'homme. Mais non par la séduction du serpent. Le premier homme a désobéi à l'instruction divine. Et c'est pourquoi Dieu viendra pour en donner les jugements. Mais Dieu, dans son amour, avait prévu une porte de sortie pour l'homme. Parce que l'homme, frères et sœurs, accomplis aux yeux de Dieu. En dépit de tout ce qui s'est passé, l'homme continuait à avoir une place de choix dans le cœur. C'est pourquoi il dit au serpent, au verset 15, je mettrai une limite entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et lui blessera le talon. À travers ce passage, de façon prophétique, le Seigneur annonce le salut. Et Dieu annonce que dans les temps futurs, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Parce que lors de la chute d'Adam et Ève, ils sont devenus esclaves du diable. Et parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu, ils ont été privés de la gloire de Dieu. Et lorsque vous regardez le monde qui vous entoure, quand vous regardez la société actuelle, qu'elle soit ici en Afrique ou bien en Occident, nous sommes totalement conscients que ça ne va pas sur la terre. Il vous suffit de regarder à travers les films, la télévision, Internet, la société de façon générale, et vous constatez que la gloire de Dieu n'est pas là. Et quand la gloire de Dieu n'est pas là, déjà aux premières heures de l'histoire de la création, lorsque la gloire de Dieu a quitté Adam, la peur et la crainte est rentrée dans le cœur. Parce que tu n'avais pas créé l'homme pour qu'il ait peur. Il y a eu le complexe rentré. L'accusation est arrivée. Le jugement de l'autre. Lorsque la gloire a quitté la première heure de la création, la jalousie est rentrée. Caïn a tué Abel. Lorsque la gloire a quitté la création, la prostitution est entrée dans le monde. Les abominations sont entrées dans le monde. Le monde va dans tous les sens. Les antivaleurs se sont installés. Ce qui était mal est devenu bien. Parce que la gloire de Dieu n'est plus là. Le monde qui nous entoure témoigne de cela. La gloire n'est plus.
Quel va ressusciter?
Mais non, comme Dieu a créé l'homme pour lui, Dieu a mis en place un plan pour restaurer sa gloire. Maintenant, pour que l'homme puisse être restauré, Dieu va organiser, orchestrer les événements sur la terre afin de permettre à ce que la postérité, parce que nous sommes nos parents de la postérité de la femme, afin que la postérité de la femme puisse déjà faire son entrée dans le monde. Parce que avant d'écraser la tête du serpent, il faut d'abord que cette postérité de la femme vienne. Alors tu vas orchestrer les événements. Cette postérité de la femme devait donc être un fils de l'homme. Alors Dieu va se choisir un homme appelé Abraham. Voilà pourquoi dans le chapitre 12 de Genèse nous avons le choix de lui sur un homme appelé Abraham. Parce que Abraham devait incarner le chef de famille, le patriarche de la lignée de cette postérité de la femme. Parce que cette postérité de la femme peut quitter le ciel subitement et venir sur la terre.
Non.
C'est un être humain qui devait passer à travers le
monde.
Mais moi, j'aimerais vous faire réfléchir ce soir. La Bible
n'a pas
dit la postérité de l'homme. Généralement, lorsqu'on parle de postérité, on parle de la postérité par rapport à l'homme.
Là,
on ne parle pas de la postérité de l'homme, on parle de la postérité de la femme. C'est-à-dire qu'il y aura un être humain qui sortira d'une femme, mais sans passer par un homme. Alors, Dieu va orchestrer les événements. Abraham est choisi.
Abraham a commandé.
Et à travers Abraham, Dieu va faire des promesses. Les promesses que Dieu va faire à Abraham, c'est les promesses qui vont concerner justement la postérité. Donc Dieu prépare les conditions de la venue et de la manifestation de cette postérité. Voilà un homme choisi parmi tant d'autres hommes bénéficiaires de la grâce et qui va recevoir des promesses par rapport à sa descendance. Maintenant, à travers Abraham, Dieu va permettre que Isaac arrive.
Et
à travers Isaac, Jacob. Maintenant, à travers Jacob, Dieu va permettre que Jacob ait plusieurs femmes.
Jacob,
avec ses femmes, va faire beaucoup d'enfants.
Jacob n'a pas si la compote.
Dieu va rendre fécondes les femmes de Jacob. Les hommes vont arriver. Maintenant, à travers tous les enfants de Jacob, Dieu a choisi un fils parmi les douze appelé Judas. Vous
ne
vous laissez même poser la question pourquoi Judas a été choisi. Parce que le père Jacob, avant de mourir, dans
Genèse 49,
il va libérer de façon prophétique la destinée de ses fils. Et lorsque Jacob a parlé à ses fils concernant
Judas,
il dira à Judas,
Judas,
de toi sortiront les rois d'Israël et que le sceptre de la royauté ne quittera pas
Judas.
Donc Judas est de la tribu royale. Dieu choisit Judas entre temps. Lorsque Dieu parle de façon prophétique à travers Jacob, Israël n'est pas encore une nation. Israël n'est pas encore un peuple. Ce n'est qu'une famille qui se retrouve en Égypte protégée par Joseph. On parle encore d'Israël. On parle encore
du
royaume. Mais de façon prophétique, Dieu choisit
Judas.
Après Abraham, l'ancêtre, il y a la tribu. Parce que dans tout arbre généalogique, ça commence par un ancêtre. Il y a la tribu. Dieu choisit Judas. Maintenant dans la tribu, parce que dans les tribus nous sommes africains, on sait comment ça se passe. Nous pouvons avoir des tribus avec plusieurs villages. Maintenant dans la tribu de Judas, toujours Dieu va orchestrer les événements. Parce que la vision de Dieu,
il
faut que la postérité de la femme fasse son apparition sur la terre
afin
d'écraser la tête du serpent. Dieu va choisir parmi tous les villages de
Judas.
Dieu va choisir le village appelé
Bethléem.
Et sur Bethléem, Dieu va parler.
Bethléem,
le prophète Michée, chapitre 5, verset 1er. Il va dire ceci: et toi, Bethléem,
Ephrata,
petit d'entre les milliers de Judas. De toi sortira pour moi celui qui dominera
Israël
étant l'origine remonte au temps ancien. De façon prophétique, le Shiloh, le Shiloh, c'est celui qui a le bâton de commandement, celui qui doit dominer Israël, a été annoncé annoncé par Dieu. Et tu vas aller chercher dans la plus petite ville ou village de Juda. Voilà pourquoi Bethléem est choisi. Après l'ancêtre, la tribu. Après la tribu, le village. Bethléem. Maintenant de ce Bethléem là, Dieu n'a pas terminé. Parce que maintenant qu'il a identifié, il a choisi le village. Dieu va maintenant chercher la famille. Parce qu'un village est constitué de beaucoup de familles. Dieu va choisir une famille pour le village. Et c'est là que, à travers votre Bible, nous constatons que Bethléem, Dieu va permettre que la famille ne va arriver à Bethléem. Nous sommes dans le livre de Ruth et des juges. Autant des juges, il y a la famille où
Zala, et qui
à Bethléem.
À Bethléem.
Il y avait beaucoup de villes à Bethléem, plutôt en Juda. Mais la Bible dit, Dieu permettra qu'il y ait la famine à Bethléem.
Et
une famille qui va durer 10 ans.
Zala, la 10 ans.
C'est un événement qu'on lit comme ça dans la Bible.
Et j'aimerais
vous dire ce soir que Dieu orchestre les événements. Il
n'y
a rien qui se fait au hasard avec Dieu. Chaque événement qui se passe dans la Bible
fera
place à un autre événement. C'est comme un puzzle. On prend chaque morceau pour former une seule pièce. Alors il y a la famille à Bethléem. Et dans la ville de
Bethléem,
il y a un monsieur qui avait une femme appelée
Naomi
qui va décider de partir où? Au pays de Moab. Pourquoi
Elimelech?
Pourquoi Elimelech? Le mari de Naomi va au pays de
Moab.
Entre toi les Moabites, c'était les étrangers.
Et qui? Bah, étrangers.
Les Moabites étaient les descendants de l'inceste de Lot avec ses filles.
Il y a les soumous, non, mon tour, non,
mais comment vous pouvez expliquer
le légal de Koyukolob?
Le Seigneur
permet pour ça
qu'un homme, de la ville qui avait la promesse royale,
mon tour, il y a beaucoup qui n'a et la canne au conseil.
Elimelech part au pays de Moab.
Elimelech a qu'une de la banque à la Moab.
Maintenant, quand Elimelech part au pays de Moab,
après Elimelech a qu'une banque à la Moab.
Pendant qu'il part, il y a la famille.
Attends, voilà 15 ans les ans.
Il va mourir là-bas. Ses enfants vont mourir. 10 ans après. Naomi.
Naomi
va entendre qu'à Bethléem, de nouveau Dieu a donné le pain. La famille est terminée. Frères et sœurs, pendant 10 ans,
c'est
une ville qui avait la promesse. Il y avait la promesse sur
Bethléem
pendant 10 ans. Comment vous expliquez qu'une ville qui avait la promesse,
dans
le nom même Bethléem, veut dire la maison du pain, la maison de l'abondance? Comment vous expliquez qu'une maison d'abondance manque l'abondance? Une maison de pain manque le pain. Pendant 10 ans, il
n'y
a plus d'abondance. Mais comme Dieu est dans sa parole, et que ce que Dieu a dit, il l'a dit, il ne revient pas sur sa parole. Alors pendant le temps des 10 ans, Dieu est en train de faire un travail. Et pendant ces 10 ans, il fallait que le fils de Naomi rencontre Ruth. Parce que dans le plan de Dieu, il fallait qu'un mariage se fasse. Mais on ne peut pas faire un mariage qui ne rencontre. Il fallait que le fils de Naomi rencontre
Ruth.
Et lorsque le fils de Naomi a rencontré Ruth, la femme étrangère est rentrée dans une alliance royale. Elle était étrangère. Elle rentre dans une alliance. À ce moment-là, lorsque les fils
meurent,
Naomi est prête à repartir. Mais Ruth, Ruth refuse
à
repartir chez les Moabites. Ruth décide de partir
à Bethléem.
Parce que dans le plan de Dieu, il fallait que cette étrangère-là vienne à
Bethléem.
Parce que cette étrangère-là devait rencontrer un homme appelé
Boaz.
Et avec cette il devait se marier et à travers leur descendance, la famille de David devait commencer. La famille de David devait commencer à travers l'alliance, la femme étrangère avec un peuple de l'alliance. C'est ça le mystère de Dieu. Nous étions étrangers, nous sommes païens, mais Christ, par son œuvre, nous a fait des deux un seul peuple. La femme étrangère est rentrée dans l'alliance royale. Ça, c'est le mystère de Dieu. La femme étrangère est
rentrée.
Et lorsque Ruth, elle se marie
à Bali,
le grand-père de David naît. La famille de David fait son apparition. Donc, l'ancêtre
Abraham,
tribu Juda, village
Bethléem,
famille de David.
David.
La famille de David se met en place.
David et Tiami.
Parce que la postérité de la femme devait être fils de
David.
Il était issu de la tribu de Juda. La tribu sur laquelle était la royauté. Maintenant, dans chaque famille, il y a des individus. Dans une famille, on va voir des garçons, des femmes. Plusieurs garçons. Et chaque garçon peut se marier. Maintenant, dans la famille de
David,
Dieu cherchait le nom des individus. Dans cette famille de David, quel sera le couple qui sera porteur de cette postérité de la femme? C'est comme ça que le choix de Dieu va se porter sur Joseph et Marie. Parce que
Joseph,
il était un fils de David. Il était de la tribu de Juda. Et donc dans la famille de David, les regards de Dieu vont s'arrêter sur Joseph et Marie. Et c'est de cette rencontre-là que maintenant Dieu dit le mot est arrivé. Je vais introduire la postérité. C'est comme ça que
Marie
va recevoir la visitation de l'ange Gabriel, qui va lui annoncer qu'elle a trouvé grâce au
Seigneur
de Dieu, et qu'elle va porter dans ses entrailles le sauveur du monde. Le sauveur du monde
devait
passer par elle, sans que Joseph interfère là-dedans. Enceinte sur la porte de
Joseph.
Elle a été choisie et à travers ses entrailles, le Christ, le Sauveur, le Libérateur devait sortir. Quand Jésus arrive, c'est pas fait comme ça, de façon hasardeuse. Dieu a fait
ça. C'est
comme quand vous lisez votre Bible, vous ne pouvez pas plus le monde là. Je prépare. Dieu avait un projet. Le projet, c'est que l'homme a perdu la gloire de Dieu. Par le péché originel, la gloire a été arrachée. Mais Dieu, à travers la postérité de la femme, il devait faire deux choses importantes. C'est pourquoi j'ai que le message de ce séminaire est fondamental. Parce qu'à travers l'œuvre de
Christ,
Dieu va régler deux choses.
mwasi.
Je vais écraser la tête du
serpent.
Premièrement, Dieu va régler la question du diable. C'est pourquoi ce jour-là, lorsque le Seigneur va être arrêté, on va l'emmener à une montagne appelée Golgotha. Or, Golgotha, son épreuve, ça veut dire que le lieu du crâne, le crâne, c'est la tête. Et Colossiens nous dit que secondo, il va régler le problème de l'homme qui a perdu la gloire. C'est pourquoi à travers la postérité de la femme, le Seigneur va ouvrir la porte qui permettra aux hommes de retrouver la gloire de Dieu. Comment retrouver la gloire de Dieu? Parce qu'il a dit tous ont péché. Ils sont privés. C'est vrai que nous avons été privés. Mais Dieu ouvre une porte. Ézéchiel 43. Dieu ouvre une porte. Dieu ouvre une porte. Nous devons bénir Dieu pour cette porte qui est ouverte. Ézéchiel 43. Je vais lire la parole de Dieu. Il me conduisit à la porte. À la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux. Et la terre resplendissait de sa gloire. Verset 4, la gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit de l'Éternel m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Ce passage prophétique d'Ézéchiel nous révèle justement par où, par quelle porte nous pouvons retrouver la gloire de Dieu. Comment l'homme peut retrouver la paix avec Dieu? Comment l'homme peut se réconcilier avec Dieu? Et ce passage nous dit qu'il y avait une maison. Et cette maison avait plusieurs portes. Maintenant, cette maison était destinée à recevoir la gloire de Dieu. Certainement que cette maison avait été conçue pour abriter la gloire de Dieu. Mais la Bible précise que la gloire de Dieu là, pour entrer dans la maison, cette maison avait beaucoup de portes. Cette maison avait certainement des fenêtres. Mais la Bible révèle que pour retrouver la gloire de Dieu, il fallait que ça passe par la porte de l'Orient, la porte orientale, la porte à l'Est.
la
porte qui est au nord.
Pas la porte
qui est au
sud.
Pas la porte qui est à l'ouest. La Bible dit que c'est par la porte de l'est. La gloire est retrouvée. Parce que effectivement,
c'est
du côté de l'Orient
que
la gloire est perdue. C'est à Éden que l'homme a perdu la gloire. C'est là que la gloire vient.
Et
parce que à l'Orient, frère,
à l'Orient,
à l'Est, l'Est, c'est le lieu où se lève le soleil. Christ est appelé soleil levant. Si Jésus est appelé soleil levant, le soleil se lève à l'Est.
L'Est.
Jésus est le lion de la tribu de Judas. Et la tribu de Judas, dans le tabernacle, elle
campait
à la porte qui n'était pas au sud. Parce que dans tous les cas, le tabernacle
est une seule
porte. Et la porte du tabernacle qui permettait aux hommes de rentrer pour expérimenter la gloire de Dieu, la porte du tabernacle était à l'Orient. La porte du tabernacle était à l'Est. Et la tribu qui est devant la porte, c'est pas
Issachar,
ce n'est pas Lévi, c'est pas Siméon, c'est Judas.
Judas.
Judas est devant la porte. Judas est devant la porte. Parce que Christ, la postérité de la femme, devait être issue de Judas. Donc c'est de l'Orient. La gloire a été perdue.
Retiens
à travers la porte. C'est pourquoi dans Jean chapitre
10,
Jésus a dit, je suis la porte.
Ça, écoutez.
On ne peut pas retrouver la gloire de Dieu sans Jésus. On ne peut pas
être
réconcilié avec Dieu sans Jésus. Il
n'y
a pas de paix avec Dieu sans Jésus. La réconciliation passe par Jésus. C'est la porte de l'Orient. La postérité
est
à cause de l'apparition. Et la gloire est revenue. Donc, comme vous voyez la croix, on a le temps dans les prochains jours à expliquer ça.
Donc, quand
vous voyez l'œuvre de la croix, non seulement la question du diable, mais aussi la question de l'homme qui va être réglé. C'est pourquoi quand l'Église comprendra l'œuvre de la croix, vous n'aurez plus peur n'importe comment des sorciers, des démons, du diable. Parce qu'à la croix, il
ne
s'est pas contenté seulement de nous libérer du péché. À la croix, il a dépouillé. On marche un autre homme.
Tu
es un autre homme. Tu n'es plus la même personne. Parce que grâce à la postérité de la femme, la gloire a été ramenée dans l'homme. C'est pourquoi il a dit, vous êtes le temple de Dieu. Ne savez-vous pas, vous êtes le temple
de Dieu.
Le temple de Dieu, c'est vous. La Bible est que nous sommes une habitation de Dieu en esprit.
Et
la maison de Dieu. Mais cette gloire, tu la retrouveras par
Jésus-Christ.
C'est par lui seul que nous retrouvons la gloire. C'est pourquoi nous prendrons le temps demain d'avancer encore un peu plus pour comprendre. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va avancer,
voilà,
ça nous amènera à au point déchiré.
Et
après, qu'est-ce qui s'est passé après? Quand nous comprendrons le mystère de Christ crucifié, ressuscité d'entre les morts, alors notre vie chrétienne ne sera plus la même. Le mystère de Christ crucifié, enseveli, ressuscité le troisième jour, et qui est remonté dans la gloire du Père, et qui s'est assis sur le trône. Votre vie chrétienne ne sera plus la même. Parce que c'est Golgotha. C'est là que tout s'est passé. Le
voile
déchiré.
Et la mort est passée.
Un événement.
Et ça, il
s'est passé un jour.
Et
à une heure. Le jour où le voile a été déchiré. C'est le jour où Christ commençait à porter nos péchés. Et pendant qu'il portait nos péchés, on le verra demain. Il y avait une heure précise. Pas n'importe quelle heure. Il y a une heure précise. Ce voile-là ne s'est pas déchiré. Ça,
et voilà,
grâce de Dieu, ce que nous verrons demain. Ce soir, on va se mettre debout. On va prier.
On
va rendre grâce au Seigneur
pour
la postérité de la femme. Ce don merveilleux qui est Jésus, qui a été envoyé par le Père. Afin de nous réconcilier avec nous. Ce don merveilleux qui est
tombé
par le Père. Afin de nous restaurer. Tous ont péché.
Et
sont privés de la gloire de Dieu. Pour que ce soit, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es encore dans le péché, sache que le péché te prive de la gloire de Dieu. Le péché n'ajoute jamais dans la vie de quelqu'un. Le péché le tranche toujours. On a dit privé de la gloire. Si tu restes dans une vie de péché, tu vas être privé des bonnes choses. Le péché n'ajoute pas. Le péché n'additionne pas. Le péché ne multiplie pas. Le péché va soustraire. Le péché va apporter la division. Ça va te détruire. Mais le Fils de Dieu est venu afin de te réconcilier avec le Père. Il ne te connaît pas ce soir. Ce que tu peux recevoir gratuitement. En dehors de Jésus, tu vas payer un prix. Le prix de sacrifice humain. Le prix de ta propre santé. Le monde qui nous entoure des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés, qui se sont livrés
au
péché et au diable pour avoir le confort, pour avoir le matériel. Mais ces hommes et ces femmes qui sont dehors, qui pensent que la vie d'un homme se résume à ses biens, la Bible déclare deux choses. Que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Combien même serait-il nombreux? Et la Bible ajoute, sert-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Et aller en enfer. J'aimerais dire ce soir que l'enfer est une réalité. De la même manière que nous croyons à la réalité du paradis et de Dieu, l'enfer est une réalité. Le jugement dernier est une réalité. Dieu a fixé un jour pour nous rendre compte devant Dieu. Il a fixé un jour. L'enfer est une réalité. L'enfer existe. De la même manière que nous croyons aux sorciers de nos familles. Parce que la grâce de Dieu est encore là. La Bible dit que la grâce de Dieu est source de salut. La grâce de Dieu est source de salut. Je peux sauver. Je peux te sauver. Je peux te sauver. C'est pourquoi il a dit qui a cru à ce qui nous était annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel. Ce soir, le bras est étendu vers toi.
Le bon corps est tiré.
Et tu peux comme Bartimée crier la détresse de ta foi vers Dieu. Tu peux dire fils de ta vie, aie pitié de moi. Tu peux dire Jésus-Christ, fils de Dieu, aie pitié de moi. J'étais loin de toi, mais je reviens à toi. Tel que je suis, je m'approche. Je ne veux pas justifier ma vie loin de toi. Je ne veux pas excuser ma vie loin de toi.
Excusez-moi.
Mais je veux seulement reconnaître que j'étais loin de toi. Le Seigneur n'a pas besoin de tous nos justificatifs. Il demande tout simplement que tu te souviennes où tu es tombé. Que tu reconnaisses ton état devant lui et que tu reviennes auprès de papa, parce que c'est pour toi qu'il a accepté de se faire fils de l'homme. C'est pour ton bien. Lui qui était Dieu, il a porté l'humanité. C'est pour ton bien. Lui qui était Seigneur, il est venu comme un serviteur. C'est pour ton bien. Lui qui était dans la gloire s'est retrouvé dans l'humiliation. C'est parce que tu as du bruit à ses yeux. C'est parce que tu trembles pour Dieu. C'est parce qu'il le t'aime. Mais ce soir, il te demande tout simplement de revenir à lui. sais toi qui as besoin de revenir à Dieu. Quand tu lèves tes mains entre au ciel, c'est un acte de foi. Je veux le montrer à ton Dieu que je suis en train de saisir la grâce qui m'a été conduite et que j'ai besoin du Seigneur. C'est toi qui as besoin de Dieu. C'est toi qui as besoin de Dieu.
Attaché à la croix, à la croix.
Merci ton Dieu pour l'homme de la gloire.